François Copé, un accident. Saint-Médard, la vieille église de la rue Mouffetard, qu'ont jadis rendu si célèbre le diacre Paris et les convulsionnaires, est une très pauvre paroisse. Le faubourg Morceau, comme on dit par là, n'a pas beaucoup de religion, et le conseil de fabrique doit avoir assez de peine à joindre les deux bouts. Le dimanche, aux heures des offices, il y a bien peu de monde, et rien que des femmes, ou presque, une vingtaine de bourgeoises du quartier et des servantes en bonnet rond. Comme homme, on n'y rencontre guère que trois ou quatre vieillards à veste de paysan qui s'agenouillent accrus sur la pierre auprès d'un pilier, leur casquette sous le bras, et roulent un gros chapelet entre leurs doigts, et rombant les lèvres et enlevant les yeux vers les ogives avec des physionomies de donataires de vitrail. Mais en semaine, plus personne. Les jeudis d'hiver, les bas-côtés résonnent un instant d'un clapotis de galoches quand arrivent et s'en vont les élèves du catéchisme. Quelquefois encore, une pauvresse à madrasse, traînant après elle un ou deux enfants et portant un nourrisson sur les bras, vient faire brûler un petit cierge sur l'if de la chapelle de la Vierge. Ou bien, c'est du côté des fonts baptismaux, des hurlements de nouveau-nés qu'on baptise. Ou plus souvent, l'enterrement d'un misérable, une bière en sapin recouverte d'un drap noir et posée sur deux tréteaux, qu'un prêtre bénit à la hâte devant un très petit groupe de femmes, les hommes étant libres penseurs et attendant la fin de la cérémonie devant le comptoir d'en face, où ils jouent des litres tourniquets. Aussi le vieil abbé Faber, l'un des vicaires de la paroisse, est-il sûr de ne pas trouver de pénitent, deux fois sur trois, auprès de son confessionnal, et n'a la plupart du temps à entendre que les aveux peu intéressants de quelques bonnes femmes. Mais c'est un homme de devoir, et les maudits mardis, jeudis et samedis, à 7 heures précises, il sera régulièrement à la chapelle Saint-Jean, sauf à faire un bout de prière et à s'en retourner s'il n'y a personne. Un soir de l'hiver dernier, luttant contre une bourrasque avec son parapluie ouvert, l'abbé Faber remontait péniblement la rue Mouffetard pour aller à la paroisse, et presque certain de se déranger inutilement, il regrettait à part lui le bon feu qu'il venait de quitter dans son petit logement de la rue Laumont, et le bol landiste in folio qu'il avait laissé ouvert sur la table en posant dessus sa paire de lunettes. Mais c'était un samedi soir, jour où les vieilles veuves qui grignotent leurs petites rentes dans les pensions bourgeoises d'alentour viennent quelquefois chercher l'absolution pour communier le lendemain. Le brave prêtre ne pouvait donc se dispenser de s'installer dans sa guérite de chêne et d'ouvrir, caissier, plein d'exactitude, ce guichet où les dévotes, pour qui la confession est une sorte de caisse d'épargne du paradis, font leur versement hebdomadaire de péché véniel. L'abbé Faber était d'autant plus fâché de sortir que ce samedi-là était un samedi de paye et qu'ordinairement alors la rue Mouffetard grouillait de monde et d'un monde assez mal disposé pour sa soutane. On a beau être un saint homme, il est peu agréable d'être forcé de baisser les yeux devant les regards malveillants et de se boucher les oreilles aux paroles injurieuses saisies au passage. Il y avait une certaine boutique de licoristes que l'abbé redoutait particulièrement, une boutique toute flambante de gaz et lançant une odeur alcoolique par sa porte ouverte, d'où l'on pouvait voir une perspective de tonneaux ornés d'étiquettes absinthe, bitère, madère, vermouth, etc. Là, debout devant le zinc, se tenait toujours une bande de gaillards à longues boules et à hautes casquettes qui saluaient le pauvre abbé, filant vite sur le trottoir, d'un croix à croix tout à fait offensant. Pourtant, ce soir-là, le mauvais temps faisant le désert dans la rue, l'abbé Faber arriva sans encombre à son église. Il mouilla son index au bénitier, se signa, fit une brève révérence au maître-autel et se dirigea vers son confessionnal. Du moins, il n'était pas venu pour rien, et un pénitent l'attendait. Un pénitent mâle, oh, c'était chose rare et exceptionnelle à Saint-Médard. Mais en distinguant la lueur rouge de la lampe pendue à l'ogive de la chapelle, le court bourgeron blanc et les semailles à gros clous de l'homme agenouillé, l'abbé Faber songea que c'était quelque ouvrier ayant gardé sa foi de paysan et de bonnes habitudes de pratique religieuse. Sans doute la confession qu'il allait entendre serait aussi banale que celle de cette cuisinière de la rue Monge qui, après s'être accusée d'avoir fait danser l'anse du panier, s'écriait toujours au seul mot de restitution. Le prêtre souriait même en se souvenant de la formule sommaire employée par un faubourien qui venait lui demander un billet de confession pour se marier. « Venez, ni tuer ni voler, fouillez dans le reste !» Aussi le vicaire entra-t-il très tranquillement dans son confessionnal et après s'être accordé une copieuse prise de tabac, ouvrit-il sans aucune émotion le petit rideau de serge verte qui fermait le guichet. « Monsieur le curé, » balbutia une voix rude qui s'efforçait de parler bas. « Oh, je ne suis pas curé, mon ami. Dites votre confidéor et appelez-moi mon père. » L'homme, dont l'abbé Faber ne pouvait pas voir le visage baigné d'ombre, annonna lentement la prière qu'il semblait se rappeler avec difficulté. Puis il reprit sourdement. « Monsieur le curé, non, mon père, enfin, excusez-moi si je ne parle pas comme il faut, mais je ne me suis pas confessé depuis 25 ans, depuis que j'ai quitté le pays. Vous savez ce que c'est, un homme à Paris. Et puis je n'ai pas plus mauvais qu'un autre, et je me disais, bon Dieu doit être un bon enfant. Mais aujourd'hui, ce que j'ai sur la conscience est trop lourd à porter tout seul, et il faut que vous m'écoutiez, monsieur le curé. » « J'ai tué un homme. » L'abbé sauta sur son banc. « Un meurtrier ? Il ne s'agissait plus ici des distractions à l'office, des mauvais propos contre le prochain et autres bavardages de vieilles femmes qu'il écoutait d'une oreille distraite et qu'il absolvait de confiance. Un meurtrier ? » Ce front qui était si près du sien avait conçu et porté la pensée d'un crime. Ses mains jointes sur son confessionnal étaient peut-être encore souillées de sang. Dans son trouble où il y avait un peu de terreur, l'abbé Faber ne trouva que des paroles machinales. « Confessez-vous, mon fils, la miséricorde de Dieu est infinie. »« Écoutez donc toute l'histoire, » dit l'homme avec un accent où vibrait une profonde douleur. Je suis ouvrier maçon et suis venu à Paris il y a plus de 20 ans avec un pays, un camarade d'enfance. Nous avions déniché des nids et appris à lire à l'école ensemble. Quasiment un frère, quoi. Il s'appelait Philippe. Moi, je m'appelle Jacques. Oh, c'était un grand et beau garçon. J'ai toujours été lourd et mal bâti, moi. Pas de meilleur ouvrier que lui, tandis que je suis qu'un sabot. Bon et brave, et le cœur sur la main. J'étais fier d'être son ami, de marcher à côté de lui, fier qu'il me tapa dans le dos en m'appelant grosse bête. Bon, je l'aimais parce que je l'admirais, enfin. Et une fois ici, quelle chance! On nous embauche tous les deux chez le même patron. Mais le soir, il me laissait seul les 3/4 du temps. Il allait s'amuser avec les camarades. C'était bien naturel à son âge. Il aimait le plaisir, il était libre, il n'avait pas de charge, au lieu que moi, je ne pouvais pas. J'étais forcé d'épargner, car j'avais encore ma mère infirme au pays à cette époque-là. Je lui envoyais mes économies. Pour l'or, je prends mes habitudes chez une fruitière de la maison où je demeurais et qui mettait le pot-au-feu pour les maçons. Philippe ne dînait pas là, lui, il s'était arrangé ailleurs. Et pour dire le vrai, la cuisine n'était pas fameuse. Mais la fruitière était une veuve pointeureuse à qui je voyais que ma pratique en de service. Et puis, il faut être franc. J'étais tout de suite tombé amoureux de sa fille, monsieur le curé. Pauvre Catherine, oh, vous saurez tout à l'heure, monsieur le curé, ce qu'il en est advenu. Alors, je suis resté 3 ans sans pouvoir lui avouer que j'avais de l'amitié pour elle. Je vous l'ai dit, je suis qu'un médiocre ouvrier, et le peu que je gagnais était à peine suffisant pour moi et pour ce que j'envoyais à la maman. Pas moyen de songer à s'établir. Enfin, ma brave femme de mère s'en alla au ciel. Je fus un peu moins gêné, je mis même quelque argent de côté. Et quand il me sembla qu'il y en avait assez pour me mettre en ménage, je parlai à Catherine de mon sentiment. Elle ne dit d'abord ni oui ni non. Parbleu, je savais bien qu'on ne me sauterait pas au cou, j'avais rien d'un séducteur. Pourtant, Catherine consulta sa mère, qui m'estimait comme ouvrier rangé, comme bon sujet, et le mariage fut convenu. Oh, j'ai eu quelques heureuses semaines. Je voyais que Catherine ne faisait que m'accepter, qu'elle n'était pas entraînée vers moi, mais comme elle avait bon cœur, j'espérais bien me faire aimer d'elle un jour, à force, à force. Bien entendu que j'avais tout raconté à Philippe, que je voyais chaque jour sur le chantier. Et quand Catherine fut ma promise, je voulus la lui faire connaître. Ah, vous avez peut-être déjà deviné la suite, monsieur le curé. Philippe était bel homme, très gai, très aimable, tout ce que je n'étais pas. Et sans le faire exprès, bien innocemment, il rendit Catherine folle de lui. Ah, c'est un franc et honnête cœur que celui de Catherine. Et dès qu'elle eut reconnu ce qu'elle éprouvait, elle me l'a dit tout de suite. Mais là, tout de même, j'oublierai jamais ce moment-là. C'était le jour de la fête de Catherine, et pour la lui souhaiter, j'avais acheté une jeannette d'or que j'avais bien arrangée dans une boîte avec du coton. Nous étions seuls dans l'arrière-boutique et elle venait de me servir ma soupe. Je tirai ma boîte de ma poche, je l'ouvris et lui montrai le bijou. Alors elle fondit en larmes. Pardonnez-moi, Jacques, me dit-elle, et gardez cela pour celle que vous épouserez. Moi, je ne peux plus devenir votre femme. J'en aime un autre. J'aime Philippe. Certes, j'ai eu du chagrin alors, monsieur le curé. J'en ai eu tout mon sou. Mais que pouvais-je faire puisque je les aimais tous les deux? Ce que je croyais être leur bonheur, pardi, les marier ensemble. Et comme Philippe avait toujours fait un peu la fête et qu'il était près de ses pièces, je lui ai prêté mon magot pour achever les meubles. Donc ils se marièrent et tout alla bien dans les premiers temps. Et ils eurent un petit garçon dont je fus le parrain et que je nommai Camille en souvenir de ma mère. Mais c'est peu après sa naissance que Philippe commença à se déranger. Je m'étais trompé sur son compte. Il n'était pas fait pour le mariage. Il aimait trop le plaisir et la rigolade. Vous vivez dans un quartier de pauvres gens, monsieur le curé. Vous devez connaître ça par cœur, cette terrible histoire-là. Alors l'ouvrier, qui glisse peu à peu dans la paresse et dans l'ivrognerie, qui tire des bordées de 2 et 3 jours, qui ne rapporte plus sa semaine et qui ne rentre plus au logis, tout vanné par la noce que pour faire des scènes et pour battre sa femme. Eh bien, en moins de 2 ans, Philippe était devenu l'un de ces malheureux-là. Dans les commencements, j'ai essayé de lui faire de la morale, et quelquefois, rougissant de sa conduite, il a tâché de se corriger. Oh, mais ça durait pas longtemps. Et puis mes remontrances ont fini par l'agacer. Et lorsque j'allais chez lui et qu'il surprenait mon regard triste sur la chambre démeublée par le mont-de-piété et sur la pauvre Catherine toute maigrie et pâlie par le chagrin, il devenait furieux. Et un jour, il eut l'audace de me faire, à propos de sa femme, qui est honnête comme la bonne Vierge, une scène de jalousie me rappelant que j'avais été amoureux d'elle autrefois, m'accusant de l'être encore, enfin des bêtises, des infamies, quoi, que j'aurais honte de répéter. Oh, ce jour-là, nous avons failli nous sauter à la gorge. Je fis ce que je devais faire, je renonçai à voir Catherine et mon filleul. Et quant à Philippe, je ne le rencontrai plus que par hasard, quand nous avions du travail sur le même chantier. Seulement, vous comprenez bien, j'avais trop d'affection pour Catherine et pour le petit Camille. Je ne pouvais pas les perdre de vue tout à fait. Le samedi soir, quand je savais que Philippe était parti avec des camarades pour boire sa paye, je rôdais dans le quartier. Je rencontrais l'enfant, je le faisais causer. Et s'il y avait trop de misère à la maison, il ne revenait pas les mains vides, vous sentez. Ah, je crois que ce misérable Philippe savait que je venais en aide à sa femme, et qu'il fermait les yeux, et qu'il trouvait ça commode. Enfin, j'abrège, car c'est trop affligeant. Des années ont passé, Philippe s'enfonçant toujours dans son vice. Mais Catherine, que j'ai secondée autant que j'ai pu, a élevé son fils et c'est maintenant un beau gars de 20 ans, bon et courageux comme elle. Il n'est pas ouvrier, lui, il s'est instruit. Il a appris à dessiner dans les écoles du soir et il est maintenant chez un architecte où il gagne d'assez bons gages. Aussi, quoi que l'intérieur soit toujours bien attristé par la présence de l'ivrogne, ça va déjà mieux, car Camille est excellent pour sa mère. Et depuis 1 an ou 2, quand je rencontrais Catherine, oh, elle est bien changée, la pauvre femme, au bras de son garçon, habillé en monsieur, cela me réchauffait le cœur. Mais hier soir, en sortant de ma gargote, je rencontre Camille et en lui donnant une poignée de main. Bon, il n'est pas fier et il rougit pas de ma blouse tachée de plâtre. Je lui trouve l'air tout chose. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a qu'hier, j'ai tiré au sort, me répondit-il, que j'ai amené le numéro 10, un de ceux qui vous envoie crever de la fièvre aux colonies avec les soldats de marine. Et que dans tous les cas, ben voilà pour 5 ans qu'il va falloir laisser maman toute seule, sans ressources avec le père, et qu'il a jamais tant bu, qu'il a jamais été plus méchant, et que l'on mourra, mon parrain, et que les pauvres gens sont maudits. Oh, j'ai passé une horrible nuit. Songez donc, monsieur le curé, les 20 ans d'efforts de cette pauvre femme détruits en une minute par la bêtise du hasard, parce qu'un enfant a fouillé dans un sac et a pris un mauvais numéro de loto. Mais aussi ce matin, j'étais voûté comme un vieux par une nuit blanche en me rendant à la maison que nous sommes en train de construire sur le boulevard Arago. On a beau avoir du chagrin, il faut travailler tout de même, n'est-ce pas? Donc, je grimpe tout là-haut, sur l'échafaudage. Nous avons déjà monté la maison jusqu'au quatrième. Et je commence à poser mes moellons. Tout d'un coup, je me sens frappé sur l'épaule. C'était Philippe. Il ne travaillait plus maintenant que par caprice. Il venait faire une journée pour gagner de quoi boire, apparemment. Mais le patron, ayant un délit à payer s'il ne finissait pas la bâtisse à une date fixe, acceptait le premier venu. Je n'avais pas vu Philippe depuis assez longtemps et j'eus peine à le reconnaître. Brûlé, séché par l'eau-de-vie, la barbe toute grise, les mains tremblantes, oh, c'était plus qu'un vieillard, une ruine. Eh bien, lui dis-je, l'enfant a donc tiré un mauvais numéro? Et après, me répondit-il d'une voix rauque, avec un méchant regard, est-ce que tu vas aussi, toi, m'embêter avec ça, comme Catherine et Camille? Ben, le garçon fera comme les autres, il servira la patrie. Parbleu, je sais bien ce qu'il chiffonne, ma femme et mon fils. Si j'étais mort, ils partiraient pas, mais tant pis pour eux. Je suis encore solide au poste et Camille n'est pas fils de veuve. Fils de veuve, ah, monsieur le curé, pourquoi a-t-il eu le malheur de dire ce mot-là? Mais la mauvaise pensée m'est venue tout de suite. Elle ne m'a pas quitté pendant toute cette matinée où j'ai travaillé côte à côte avec ce malheureux. J'ai imaginé ce qu'allait souffrir la pauvre Catherine quand elle aurait pu son garçon pour la nourrir et la protéger, et qu'elle resterait toute seule avec ce misérable ivrogne, tout à fait abruti maintenant, devenu féroce et capable de tout. Alors 11 heures sonnèrent à une horloge voisine, et les compagnons descendirent tous pour déjeuner. Nous étions restés les derniers, Philippe et moi. Mais Armand, s'engageant sur l'échelle pour descendre à son tour, ne voilà-t-il pas qui me regarde en ricanant et qui me dit avec sa voix éraillée par le fil en quatre: Mais tu vois, on a tout pied marin. Camille n'est pas près d'être fils de veuve, va. Alors, je reçus au cerveau comme un coup de sang et de colère. Je saisis dans mes deux mains les montants de l'échelle à laquelle Philippe s'accrochait en criant: À moi! Et d'un seul effort, je la fis basculer dans le vide. Bon, il a été tué raide. Et on a cru à l'accident, mais maintenant, Camille est fils de veuve et il partira pas. Voilà ce que j'ai fait, monsieur le curé, et ce que j'avais besoin de dire à vous et au bon Dieu. Je m'en repens, j'en demande pardon, c'est vrai, c'est clair. Mais il faudrait pas voir passer Catherine dans sa robe noire, tout heureuse au bras de son fils. Je serais capable de ne plus regretter mon crime. Pour éviter ça, j'émigrerai, je m'embaucherai pour l'Amérique. Quant à la pénitence, tenez, monsieur le curé, voici la jeannette d'or que Catherine m'a refusée quand elle m'a avoué qu'elle était amoureuse de Philippe. Je l'avais toujours gardée en souvenir des seuls bons jours que j'ai eus dans ma vie. Prenez-la et vendez-la. L'argent sera pour les pauvres. Jacques se releva-t-il absous par l'abbé Fabert? Ce qui est certain, c'est que le vieux prêtre n'a pas vendu la jeannette d'or. Après en avoir versé le prix ou à peu près dans le tronc de l'église, il a suspendu le bijou comme un ex-voto sur l'autel de la chapelle de la Vierge, où il va souvent prier pour le pauvre maçon.